Sí. Buenas tardes a todos. Vamos a platicar un poquito de cómo se trabaja en Guanajuato, en México, con respecto a las zonas metropolitanas. La parte de las zonas metropolitanas en León, cómo se trabaja, es a través de nuestra normativa, nos permite crear comisiones de zonas metropolitanas y su misión es lo que es la adecuación, actualización de todo el marco jurídico federal para promover el desarrollo equitativo y sustentable de las metrópolis como un trabajo de gobernanza de región. Entonces, el Congreso y el Ejecutivo Federal impulsan esta formalización y trabajo entre diferentes municipios a través de decretar una zona metropolitana y crear un fondo metropolitano para ayudar a financiar proyectos que atiendan estas zonas. Eso se hace desde el 2003, lo que fue la creación de la Comisión del Desarrollo Metropolitano en México, y a partir del 2008, lo que es la creación del Fondo para Zonas Metropolitanas a nivel nacional. La primera definición oficial y delimitación de zonas metropolitanas en México se realizó en el 2000 y posteriormente se han hecho actualizaciones de esas delimitaciones en el 2005 y en el 2010, gracias a la información del conteo que hace el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del país. Hasta el día de hoy tenemos 59 zonas metropolitanas decretadas en todo el país y esta delimitación depende de un grupo interdisciplinario conformado por diferentes dependencias que tienen que ver con el desarrollo urbano del país y el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con respecto a Guanajuato, Guanajuato se encuentra en el centro del país, tiene 5.7 millones de habitantes, es el sexto estado a nivel nacional, está en la parte de la región centro del corredor industrial, es una área estratégicamente, con una geográficamente estratégica, está conectada de norte a sur, de sur a oeste, con las carreteras, infraestructura ferroviaria y aeroportuaria. Estamos a 3 horas y media de la Ciudad de México, que es la capital del país, y aproximadamente tenemos más de 88 mil estudiantes en todo el estado, en las diferentes instituciones educativas. Nuestro complejo, nuestro contexto urbano abarca muchas temáticas. Tenemos varios problemas como lo que es un transporte público deficiente, lo que provoca que la población tenga que usar el automóvil para poder desplazarse. También todavía no tenemos una cultura del peatón y de la movilidad a través de las bicicletas. No aprovechamos correctamente todos nuestros recursos naturales y no aprovechamos también la ventaja competitiva que tenemos al estar en una posición estratégica en el país, pues deberíamos de estar aprovechando toda esa conexión de manera adecuada. Y también tenemos diferentes desarrollos habitacionales, pero fuera de lo que es el centro urbano, entonces eso nos provoca tener que hacer grandes desplazamientos para poder acceder a nuestros servicios y a nuestros equipamientos para bienes y servicios. Tenemos sobreexplotados nuestros acuíferos, entonces tenemos que hacer muchas cuestiones de lo que es el uso adecuado del agua a través de todo su ciclo, del reuso, del aprovechamiento y del tratamiento. También falta mucho en cuestión de tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de suelo urbano para la población de escasos recursos. Eso también lo que nos ha generado es que el encarecimiento del suelo en los centros urbanos ha sido elevado por la plusvalía, por la especulación de esos terrenos. Entonces no hemos podido tener mecanismos de acceso a esos centros urbanos para poder utilizarlos. Entonces es suelo baldío que no se utiliza. y asentamientos irregulares de esta población de escasos recursos que por lo general se establecen en zonas de alto riesgo. Entonces, toda esta parte de todas estas problemáticas se han tenido que atender o se han establecido a lo largo de la legislación. Entonces, en 1977 se crea la que fue la primera ley de desarrollo urbano en el estado de Guanajuato, y en 1986 lo que fue la primera ley de planeación en el estado. Esto ha generado diferentes instituciones para lo que es la planeación del desarrollo regional en mi estado y tener que hacer diferentes adecuaciones a las modificaciones. Entonces, en el 97 se vuelve a dar una modificación a la ley de desarrollo urbano. En el 2000 se crea una secretaría, que es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, para atender los diferentes temas. Y ha habido una visión de desarrollo, de planeación de largo plazo a través de la creación de diferentes instituciones en planeación. Una unidad de planeación estratégica en el 2003, que era la que se encargaba, digamos, de todos los grandes proyectos en el estado de largo plazo, pero después hubo ciertas adecuaciones hasta en el 2016 que se crea el Instituto de Planeación del Estado. Somos el único estado a nivel nacional que tiene un instituto de planeación encargado de los grandes proyectos de largo plazo. Nuestro estado se divide en 4 grandes regiones y 10 subregiones que están, digamos, identificadas por su vocación natural o por su interacción con diferentes actividades a lo largo de todo el estado. Y contamos con 5 zonas metropolitanas en todo el territorio. Estas zonas metropolitanas de Guanajuato abarcan una población de 5.853.000 habitantes en todo el territorio. Entonces, en estas zonas metropolitanas está ubicada el 73% de la población de todo el estado. Entonces, por eso que para nosotros la parte de cómo atender la gobernabilidad a través de esta forma de pensar para el desarrollo metropolitano es muy importante. Nuestra población económicamente activa en estas zonas es de más de 2.250.000 habitantes y la producción total en estas zonas es casi del 92% la que se lleva a cabo en estos territorios. Con respecto a la constitución de las zonas metropolitanas de Guanajuato, bueno, la primera fue en el 2008 que se creó la zona metropolitana de León, con la que tenemos la fortuna y la oportunidad de estar intercambiando experiencias con la zona metropolitana de Burdeos. Y a su vez, derivado de todo ese trabajo y experiencia, en el 2000, en el 2010 se creó la otra zona metropolitana, la Laja Bajío, la zona metropolitana de Moroleón, Uriangato y la zona metropolitana de Irapuato, Salamanca. Dentro de la zona metropolitana de León, que abarca el 8% de nuestro territorio y el 33% de la población de todo el estado de Guanajuato en este territorio, se genera el 41% de la producción, que son más de 285.000 millones de pesos. Hay diferentes documentos o normatividades dentro de esta zona metropolitana que nos permiten acceder a un fondo metropolitano. Desgraciadamente, ese fondo a nivel nacional ha estado disminuyendo por diferentes situaciones en el país, por lo que nos ha obligado a que en esos municipios y a través del gobierno del estado tengamos que pensar ya más en proyectos que abarquen 2 o más municipios sin la necesidad de acceder a ese fondo. En el esquema de trabajo de las zonas metropolitanas está esta comisión de conurbación, que es la encargada de revisar todas las propuestas de proyectos emitidas por cada uno de los municipios y se presentan a esta Comisión Metropolitana Nacional. En esta comisión metropolitana, que es el Consejo Metropolitano, se aprueban de manera general los proyectos y los que se validen pasan a un subcomité técnico. Este subcomité técnico revisa ya a nivel muy detallado el proyecto, remite la propuesta de estos proyectos para ser susceptibles a adquirir a pasar a este fondo metropolitano y asignar el recurso correspondiente. Dentro de los proyectos y la participación social, que también es muy importante en el estado de Guanajuato, se han derivado diferentes proyectos desde el 2008 que estamos trabajando con este desarrollo, como estudios y proyectos de impacto metropolitano en movilidad, en residuos sólidos, desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, para atender esos grandes factores y grandes temas que son los que comentamos al principio de la presentación. También de infraestructura vial metropolitana, de parques urbanos, de infraestructura hidráulica y a través de la participación ciudadana la hacemos con un consejo estratégico de participación, donde participan más de 100 ciudadanos y que están presididos por mismos ciudadanos estos consejos de participación, ya sea a nivel estatal, regional y municipal. ¿Cuáles son los retos que todavía tenemos en cuestión del trabajo de nuestras ciudades y de que están en nuestras zonas metropolitanas? Pues sobre todo es privilegiar la movilidad no motorizada y el transporte público que sea de calidad y que nos permita dejar de utilizar el automóvil. Ahorita por las mismas cuestiones de que es deficiente, de que no es bueno, de que se tarda, de que no se usa, la gente tiene que usar el automóvil por cuestión de seguridad y de comodidad, sobre todo las mujeres. Y aprovechar también las capacidades competitivas, las vocaciones socioeconómicas de todas nuestras ciudades, aprovechar esa complejidad que hay en nuestro estado de tener 4 zonas metropolitanas, pero también la conexión que tenemos a nivel nacional. Contar con una verdadera política de suelo, de vivienda, incluyente, que atienda a toda la población, sobre todo a la que está en condiciones de pobreza, y promover lo que es el ordenamiento sustentable. También somos el único estado que maneja en sus diferentes instrumentos de planeación lo que son las dos políticas, la parte de desarrollo urbano y la parte del ordenamiento ecológico territorial. Por lo general en el país esas dos políticas se ven de manera aislada y muchas veces las políticas se contraponen al momento de determinar un proyecto. Construir estas ciudades abiertas, humanas, integradas, sobre todo que generen comunidad, que generen barrios para aprovechar todos los espacios. Integrar estas políticas ambientales para el uso eficiente de todos nuestros recursos naturales, ser más conscientes de utilizar correctamente nuestros residuos y promover el uso y la generación de lo que son las energías renovables. Construir espacios públicos, el rescate de espacios públicos es muy importante, activos que son activos de alta calidad y mejora en la imagen urbana y en las ciudades para fomentar lo que es la identidad y el respeto a nuestro patrimonio. Generar también una fortaleza jurídica que sea acorde a la realidad urbana que estamos viviendo y que fortalezca todos estos mecanismos e instituciones responsables. El papel del Instituto de Planeación en el Estado, nosotros trabajamos directamente con el gobernador como su staff, como su asesor técnico en la cuestión de la planeación de largo plazo. Entonces, somos esa entidad que también genera estos instrumentos de planeación y coordina toda la planeación del desarrollo en el Estado, identifica estos proyectos y estrategias de mediano y de largo plazo para que nuestro Estado sea competitivo y genera estos esquemas de participación social para que sean partícipes en el impulso de la planeación, del desarrollo y sobre todo lo que es la generación del desarrollo ecológico y urbano. Difundimos lo que son las mejores prácticas a través de diferentes convenios, establecemos procesos de vinculación, de coordinación y esa asesoría permanente hacia los 46 municipios que componen el estado a través de la instrumentación de un modelo de desarrollo regional. Entonces, nosotros trabajamos con esta visión de desarrollo del estado. Ahorita estamos elaborando lo que es nuestro plan estatal de desarrollo con una visión al 2040 y trabajando con identificar los grandes proyectos y las grandes acciones para lograr ese objetivo de cómo visualizamos el estado de Guanajuato. El instituto se compone de tres grandes direcciones que tienen que ver con la coordinación y participación social, la información estadística y geográfica a nivel estatal, lo que es la planeación del desarrollo en materia gubernamental y en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como una coordinación de seguimiento y evaluación de todas estas políticas públicas que se llevan a lo largo del estado, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, para nosotros es muy importante este seguimiento y evaluación de estas políticas a lo largo del trabajo. Prácticamente sería todo en este contexto de cómo llevamos el desarrollo del fenómeno metropolitano en el estado de Guanajuato y bueno, en mi país, que es México. Muchas gracias. Merci.
Pues muchas gracias para esta presentación. Si no funciona, quizás. Sí. Donc bonjour, Thomas Labarthe, titulaire à l'Univen, étudiant à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Donc on est ici pour représenter les étudiants qui ont effectué les workshops donc aller-retour entre Bordeaux et Guanajuato, au Mexique. Et donc on va vous parler d'une des parties donc de la collaboration entre Bordeaux et Guanajuato, qui est celle de l'entente entre l'ENSA-BX, l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, et l'université de Guanajuato, la section donc de design et d'art, et plus spécifiquement donc d'un workshop que l'on a étudié à León et qui était celui donc du secteur San Juan de Dios, donc qui fait partie donc des derniers workshops qui ont été effectués donc cette année dans l'entente entre les deux écoles.
Bonjour. Donc on se devait de resituer d'abord cette entente entre les deux écoles dans le partenariat qui unit la métropole de Bordeaux et l'État de Guanajuato. C'est un partenariat qui date de 2008, mais qui a été formalisé à partir de 2011, qui a été reconduit en 2015. Au départ, c'est un partenariat qui vise à traiter des questions de mobilité, d'eau, de déchets, de planification, de gouvernance, et qui s'est orienté un peu plus tard vers les questions de développement économique. Donc c'est aussi un partenariat qui est inscrit dans le partenariat stratégique de la France et du Mexique. Donc du côté de Bordeaux, aujourd'hui, la métropole n'est pas seulement caractérisée par l'image du vin, du patrimoine, mais aussi par son dynamisme du point de vue économique, démographique, culturel. Et cette métamorphose, elle se fait avec l'idée d'une ville qui devrait être plus humaine, plus solidaire, plus durable. Et évidemment, en intégrant des réflexions d'experts, et une concertation avec les habitants. Donc ça, ce sont des préoccupations que nous partageons en tant que futurs architectes. Donc c'est pourquoi l'école s'inscrit aussi dans ce partenariat. Donc l'enjeu, c'est à la fois de valoriser le patrimoine et en même temps d'intégrer des nouveaux quartiers. Il y a la question de l'arrivée de la ligne à grande vitesse aussi, la LGV. Et donc c'est pour ça que Bordeaux Métropole requiert l'expertise de l'ENSA-BX, donc de l'école d'architecture de Bordeaux. Et c'est aussi un moyen, bien sûr, de favoriser les échanges pour les étudiants, la mobilité internationale. Et du côté d'Iplaneg, au Mexique, qui est l'institut de planification dont on a parlé, il y a le même besoin et la même volonté de concertation, d'allier l'expertise et les habitants. C'est aussi l'idée qu'une société plus éduquée peut envisager le développement, mais aussi le provoquer et l'amener à se consolider. Donc Thomas va présenter globalement les sites sur lesquels on a travaillé pendant ces 3 ans. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que depuis 3 ans, il y a un aller-retour qui se fait entre la France et le Mexique. Des étudiants français vont au Mexique faire un workshop de 10 jours. Et ensuite, les étudiants mexicains viennent en France faire un workshop donc à Bordeaux, puis à Martignas, mais Thomas va présenter les sites.
Voilà, donc pour commencer, je vais rappeler donc ce qu'a dit Titouan, que l'entente entre les deux écoles, elle est principalement basée sur des questions de transport, de gouvernance, de gestion des déchets, de l'eau, de planification, et surtout de comment envisager l'espace public dans nos villes et dans le futur. Donc, les workshops qui ont été effectués en France sont déroulés donc à la fois dans le secteur Senon 2001 et dans la ville de Martignas, qui sont donc deux secteurs qui ont deux territoires qui ont des problématiques bien particulières. Et au Mexique, les territoires qui ont été donc étudiés sont ceux de Santuario, El Barrio Santuario à León, et El Barrio de San Juan de Dios à León aussi. Donc pour commencer, le secteur de la 2001 à ce nom, qui était intéressant à étudier donc, et à confronter la culture mexicaine et la culture française à cet endroit-là, car c'était un espace assez caractéristique des nouvelles, on va dire, friches ferroviaires. On se retrouve dans une entrée de ville qui est donc qui jouxte le futur quartier Brazza et le secteur Pont Rouge. Et donc ce secteur a soulevé plusieurs questions à la fois sur la mobilité, sur l'arrivée de la nature dans la ville, donc là du coup des adventices, des plantes qu'on n'avait pas forcément prévues, comment envisager leur accueil, on va dire. Ensuite la question de la densité, et enfin la question de la mixité. La deuxième ville donc, qui a fait l'objet d'études en France, donc dans la région bordelaise, ça a été Martignas. Donc Martignas, c'est une ville nature qui a cette dualité, on va dire, entre le centre-ville et la Jal, qui ont toujours été, on va dire, des territoires proches, mais à la fois éloignés, parce qu'il n'y avait pas assez d'aménagement qui favorisait donc leur intégration et leur relation. Donc depuis plusieurs années, donc la commune de Martignas essaie de revaloriser son centre-ville, sa Jal, et les relations entre ces deux territoires, en effectuant donc plusieurs études. Et ces études ont abouti donc sur un scénario qui est celui de créer un nouvel hôtel de ville rassemblant tous les services, donc qui pourrait favoriser les échanges entre les habitants. D'autre part, la conservation du patrimoine bâti. Donc il y a un certain patrimoine là-bas qui est intéressant à étudier et à valoriser dans le cadre, comme ça a été fait avec l'Inplan à León, de la route du piéton, de valoriser le patrimoine sur une longue distance. Là, ce serait la même chose donc à Martignas, avec donc des aménagements, notamment l'aménagement des bords des Jales. Et enfin, pour favoriser l'intégration des habitants, apaiser la circulation automobile et favoriser les modes de circulation doux, donc piétons, vélos, etc. Et donc, dans ce secteur, l'école a été interrogée donc, sur sur la capacité d'évolution et de transformation de ces espaces-là, en accompagnant cette stratégie menée donc par la municipalité au sein de son PLU. Pour le quartier de Santuario, donc, qui est donc le premier quartier mexicain qui a été étudié dans le cadre de l'échange entre Bordeaux et Guanajuato. Donc on est dans le cadre d'un quartier qui est très important sur le plan, on va dire, traditionnel, culturel et identitaire de la ville de Guanajuato. Donc c'est un quartier fondé en 1576 et qui est caractérisé par sa topographie, parce qu'il a été implanté tout simplement dans la vallée des Dames, qui est donc un secteur avec une topographie assez importante et qui lui donne aujourd'hui certaines qualités paysagères. On a beaucoup de qualités, on va dire, sur les vues que ça dégage sur l'ensemble de la ville, mais aussi sur les espaces publics qui peuvent en découler. On a donc des espaces en terrasse, des rues avec des caractères assez intéressants, mais on est dans un quartier représentatif des problèmes que l'on retrouve à León, qui est donc où on retrouve beaucoup de vandalisme, d'insécurité et de précarité dans les activités qui s'y déroulent actuellement. Le deuxième quartier, San Juan de Dios, lui a été fondé donc à peu près à la même période, en 1595, fait aussi partie des quartiers les plus anciens de León. Et il a été fondé donc autour de l'hôpital et du temple, qui sont encore aujourd'hui des figures importantes dans le quartier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un quartier qui fait partie de la route du piéton, la Ruta del Peatón, qui permet de rassembler les différents quartiers les plus anciens de León, qui sont Cuechillo, Arriba, la Calzada de los Héroes et San Juan de Dios. Donc connu pour ses ateliers textiles, ses glaces et son identité d'atelier, elle a une identité culturelle forte, qui est gangrénée par les mêmes problèmes que l'on retrouve dans le quartier de Santuario, et qui a incité donc Iplaneg à contacter donc l'école de Guanajuato, qui a elle-même contacté l'école de Bordeaux, et donc on a eu un échange sur cet espace-là pour savoir comment donc accompagner le travail qui a été mené par tout au long de l'Implan et avec la route du piéton.
Donc, Thomas a présenté donc, le quartier de San Juan de Dios, effectivement, qu'on connaît un peu mieux puisqu'on est intervenu dessus. Donc, il a dit un quartier qui a plus de 300 ans, qui a été caractérisé par plusieurs activités économiques, la gastronomie, l'industrie textile notamment. Et c'est à ce titre, parce que c'est un quartier important, un quartier ancien et un quartier qui est important aussi dans l'imaginaire des habitants de León, qu'il a fait l'objet de la route du piéton, donc un travail de régénération urbaine sur plus de 700 mètres. Et donc cette année 2017, c'était aussi une année importante pour ce quartier, puisque la route en question, la route du piéton, devait être étendue, ce qui signifie la réhabilitation du pavement, des installations électriques, de l'installation de mobilier urbain, de signalétique, des travaux de jardinage et des travaux sur 900 mètres carrés de place, de la place attenante au temple ancien dont Thomas a parlé. Donc c'est pour ça qu'avec notre garde étudiante, nous devions d'interroger ce projet. Donc voir s'il était pertinent, ou en tout cas si on devait faire autre chose. On expliquera peut-être après qu'on en est venu plutôt à le conforter, à le compléter, à l'accompagner. Donc voilà, on va pouvoir vous parler du projet, je crois, et Thomas a énoncé les problématiques qui sont, il faut le rappeler, issues aussi des discussions qu'on a eues avec les habitants, puisque c'était aussi l'objet du processus de travail. Il fallait qu'on échange, qu'on récolte des informations avec assez peu de temps, mais on a discuté et on a donc relevé ces problèmes, notamment d'insécurité, surtout de manque d'espace dédié à la culture. C'était ce qui ressortait beaucoup des échanges. Et donc, ça nous a amené à apporter des propositions qui visaient à y répondre.
Donc, parmi les propositions que l'on a énoncées, donc il y a eu trois groupes de travail cette année-là. L'un travaillait sur la modulation soutenable, l'autre sur l'acupuncture urbaine Et notre groupe, donc, il travaillait sur les intramuros, c'est-à-dire comment requalifier les intérieurs d'îlots, comment requalifier les cours que l'on retrouvait à l'intérieur des îlots. Donc, étant étudiant français, on n'avait jamais étudié le parcellaire mexicain, le tissu et toute l'histoire donc, urbaine mexicaine. Et dès qu'on arrivait sur place, c'était assez intéressant de se rendre compte que c'était un parcellaire donc, radicalement différent et qui était, on va dire, assez évolutif. Alors qu'en France, on est vraiment contraint par les normes, par le PLU, au Mexique, on a eu l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup plus de liberté dans la création de l'espace public et de l'espace donc, privé. Et donc, on s'interrogeait sur cette façon, comment redonner de la sécurité dans la ville par la culture et en intégrant cette question du parcellaire, de l'évolution donc, du tissu urbain. Donc, on va parler plus précisément de notre groupe. Donc, après avoir discuté avec des habitants, après avoir visité les intérieurs d'îlots et les différents bâtiments qu'on pouvait retrouver, on s'est rendu compte, et c'est aussi les retours qu'ont les étudiants mexicains, que la ville de Lon est vraiment, on va dire, suroccupée par l'automobile. Donc, elle est suroccupée par l'automobile pour que l'on puisse se véhiculer, changer de quartier, circuler à l'intérieur de la ville. Mais c'est aussi suroccupé en termes d'espace au sol. On retrouve beaucoup de parking, beaucoup de hangars où on retrouve beaucoup de voitures à l'intérieur, etc. Et c'est pourtant des espaces qui ont, on va dire, une certaine qualité quant à la relation avec l'espace public. On s'est donc demandé comment on pouvait les réexploiter, les repenser pour qu'ils deviennent donc des lieux dédiés à la culture. On avait rencontré donc un habitant.
Vous trouverez un restaurant tenu par Jean-Pierre Zeradakis à l'étage, ouvert de 12h à 14h30. Par la suite, vous aurez un espace café disponible au rez-de-chaussée. Pour les plus petits, un espace de jeu Capla est situé à l'étage.
Donc oui, comme je disais, on a eu l'occasion de rencontrer le plus ancien du village, on va dire, qui nous disait que ce qui manquait et ce qui avait disparu surtout à San Juan de Dios, donc c'était toute cette culture des ateliers et qui apportait vraiment un bénéfice culturel dans les rues, dans l'espace public et surtout pour les enfants. Et il disait qu'aujourd'hui, le problème, il y avait de l'insécurité parce qu'on n'occupait pas assez les rues. Et pour lui, la solution, ce serait par exemple que les enfants, en sortant de l'école, ils n'aient pas directement rentré chez eux, mais ils aient des différentes étapes qu'on puisse leur proposer, dédié à la culture, que ce soit la musique, le théâtre, la poésie, peu importe. Et donc, notre projet, ça a été de tirer, on va dire, bénéfice des études que l'on avait menées sur le tissu urbain pour faire des propositions d'espaces culturels ouverts ou fermés dédiés à toutes ces activités-là et qui, on va dire, accompagnerait tout le travail fait en amont par l'IPLANEG et tout ce qui était donc dédié à l'IMPLAN, donc pour essayer de conforter cette étude déjà menée. Et pour terminer, donc nous venons de terminer donc une publication sur la relation menée entre l'école de Bordeaux et l'école de Guanajuato, donc qui est en impression actuellement. Qu'on aurait aimé vous présenter, mais donc on a été pris par le temps. Et pour vous donner un petit peu plus l'idée de ce qu'on a pu vivre là-bas, on peut vous présenter quelques images donc du travail qui a été effectué et de cet espace public donc qui nous a tant intéressé.
Thank you.
Apparemment, il y a des petits problèmes.
Ce que vous avez peut-être déjà eu le temps de voir sur les images qui ont été projetées quelques secondes, c'est la taille des îlots. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui nous a frappé en arrivant. On a eu l'intuition que peut-être il fallait retrouver une échelle plus humaine, enfin plus appropriable, avec plus d'intersections, plus d'opportunités de croisement, etc. Et donc le parcours dont Thomas parlait pour les enfants, avec un parcours jalonné d'activités culturelles en rentrant de l'école, en rentrant à la maison, c'était, on pouvait à la fois, si vous voulez, redécouper ces îlots et spatialiser ce parcours, en fait. C'est pour ça que les projets étaient surtout sur l'intérieur d'îlots.
Bon, apparemment, il y a des petits problèmes techniques pour la vidéo. Donc, si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre. Todo fue claro.
Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une question, c'est quelle démarche a été faite en fait avec les habitants et comment le travail a été mis en place avec eux pour justement les accompagner à se réapproprier leur quartier. Quelle forme de travail en fait a été mis en place, si c'était des ateliers, si c'était des formes de questions-réponses, de débats, de conférences
Alors en fait, ça dépendait des ateliers. C'est une bonne question parce qu'en fait, le but de ces ateliers, c'est la participation citoyenne. C'est proposer de nouveaux espaces publics pour la participation citoyenne et le mélange, on va dire, la mixité. Et donc, faire un atelier fermé dans une école, ça n'aurait pas de sens. Donc, pour les différents workshops, il y a eu différentes actions qui ont été menées. La plus intéressante étant, je pense, celle de Santuario, où ils ont en fait carrément occupé une maison qui était abandonnée pour faire des repas, faire des projections, faire des activités avec les habitants. Et donc par ce biais, montrer aux habitants que leur quartier, en fait, il pouvait être habité d'une autre manière. En fait. Ça ne pouvait pas être seulement les rues et les commerces qui existaient, mais on pouvait envisager une autre vie, en fait, un futur à cet espace public. Après, pour les autres workshops, ce qu'il y a eu, c'était que c'était des présentations publiques avec, avec la présence des politiques, des habitants, et donc avec exposition et retour aussi sur le travail qui a été fait. Voilà. Donc, j'aimerais aussi remercier donc les professeurs qui s'occupent de ces échanges et qui font que ça continue. Donc à Bordeaux, Carlos Gottlieb et John Broder. Et donc au Mexique, Miguel Angel Garcia Gomez et Velia Ordaz aussi. Et je pense que c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon ? Bon. Mais merci beaucoup.